directrice des programmes du studio Kalangou. Bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du studio Kalangou. Bakimbo Touré Al-Mustapha à la présentation. L'intérêt de l'agroécologie dans le développement agricole, c'est le thème que nous allons développer ce soir avec nos invités. Défini dans l'article de Charles Francis, Université de Nebraska-Lincoln de 2003, comme l'étude interactive de l'écologie de l'ensemble du système alimentaire intégrant les dimensions écologiques, économiques et sociales, l'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. En effet, l'agroécologie amplifie les différents systèmes de production tout en visant à réduire ou diminuer les pressions sur l'environnement, en réduisant l'émission de gaz à effet de serre et en limitant le recours aux produits phytosanitaires et préserver ainsi les ressources naturelles. De ce fait, quelle est l'importance de l'agroécologie pour l'agriculture paysanne? Comment se pratique l'agroécologie en Afrique et particulièrement ici au Niger? Quels sont les obstacles que rencontrent les paysans dans l'utilisation du système, des systèmes agroécologiques? Quelle perspective pour le développement agricole et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire? Avec nos invités ce soir, nous allons tenter de trouver des réponses à toutes ces interrogations que nous venons de poser. Et c'est ainsi que nous recevons sur ce plateau M. Kani Abdoulaye, qui est membre du Code collectif des organisations de défense des droits de l'homme ici et de la démocratie au Niger, également membre de la COPAGEN. Nous avons avec nous ce soir M. Ibrahim Hamadou, qui est membre de la plateforme agroécologique Raya Karkara. Et également, nous avons invité M. Mourou Amadou Bello, qui est membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, COPAGEN. De nos jours, face à l'échec de l'agro-industrie à travers le monde et dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique en général et particulièrement au Niger, beaucoup d'organisations internationales et nationales pensent que le recours à l'agroécologie est indispensable. Chers invités, parlons de cette question, cette pratique de l'agroécologie. Et pour commencer, monsieur, dites-nous quelles sont les principales caractéristiques de l'agroécologie. Nous allons débuter avec monsieur Ibrahim Hamadou, qui est membre de la plateforme agroécologique Raya Karkara.
Merci le studio Kalangou pour l'opportunité que vous offrez à la plateforme Raya Karkara pour parler de ce sujet d'importance pour le Niger. Donc, pour revenir à la question qui est posée, quelle est la caractéristique de l'agroécologie? Donc, voyez-vous, dans le contexte global, l'agroécologie, et je pense qu'il faut le situer d'abord dans sa définition. Et il y a des définitions diverses, mais je donnerai quand même quelques éléments qui caractérisent l'agroécologie. Le premier élément, c'est que l'agroécologie est quand même une science. C'est une science, sinon une interdisciplinarité, qui inclut des disciplines liées à l'écologie, à l'agriculture, bref, à toutes les disciplines connexes au développement durable. L'agroécologie pourrait être définie aussi comme étant un ensemble de pratiques, parce que les gens ont tendance à limiter la question de l'agroécologie à quelques pratiques. Et l'agroécologie, au-delà des pratiques et de la discipline scientifique, c'est tout un mouvement. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, n'est-ce pas? Et qui prend en compte aussi bien les connaissances scientifiques que traditionnelles, mais des connaissances qui s'inscrivent dans une certaine durabilité. Bref, l'agroécologie, c'est se conformer aux lois de la nature. Tout se transforme.
Tout se transforme.
Rien ne se perd, tout se transforme.
Et comment se caractérise de manière pratique cette question de l'agroécologie?
De manière pratique, dans le contexte du Niger, l'agroécologie se traduit par, en tant que discipline scientifique au Niger, je pense que depuis 2 ou 3 années, des universités et les institutions de recherche sont en train de se battre pour que cette question, cette discipline soit enseignée aux générations futures. Parce qu'on a vu qu'on a fait du mal, le mal de ne pas enseigner cette approche aux générations du passé. Et donc, en tant que discipline scientifique, elle est actuellement enseignée au niveau de certaines universités du Niamey, et à Tillabéri, à Niamey spécifiquement. Et en tant qu'ensemble de pratiques, aujourd'hui, les organisations paysannes sont en train de diffuser des connaissances, n'est-ce pas, en lien avec l'agroécologie, mais aussi de capitaliser le savoir et le savoir-faire de nos paysans. Parce que l'agroécologie tire aussi son essence du savoir paysan. Et donc, les organisations paysannes, notamment les plateformes paysannes, la COPAGEN, je ne citerai pas toutes les organisations, font un travail formidable dans le contexte du Niger pour ramener certaines pratiques aux paysans, pour dire attention à une dérive, essayons de faire ce que nos parents ont fait pour conserver durablement les terres, pour conserver durablement les ressources phytogénétiques, pour nous nourrir depuis des centenaires. Mais en tant que mouvement, je pense que le Niger est quand même pionnière en Afrique de l'Ouest. Depuis, je pense, 6 ans, le Niger, les acteurs au Niger se sont réunis pour dire « Attention, il faut qu'on parte d'une seule voie, il faut qu'on défende l'intérêt des agriculteurs, il faut que nous soyons ensemble. » Et à travers cela, ils ont créé un mouvement multi-acteurs qui est dénommé la plateforme Raya Karkara que je représente ici, qui regroupe en son sein une vingtaine d'organisations, pas des moindres au Niger. Des organisations paysannes, des institutions de recherche, et des ONG internationales qui croient à cette agriculture durable que promet l'agroécologie.
L'agroécologie. Merci, monsieur Ibrahim Hamadou, pour ces éléments de réponse. Nous allons revenir à vous, monsieur Kani Abdoulaye. Vous êtes membre du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, également membre du COPAGEN. Dites-nous quelle est aujourd'hui l'importance de l'agroécologie pour l'agriculture de manière générale et particulièrement l'agriculture nigérienne.
Merci beaucoup et permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez d'intervenir sur cette thématique. Oui, je suis présenté comme coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Certainement, certains se poseront la question à savoir qu'est-ce qu'un acteur de droits humains, quoique je suis membre au point focal COPAGEN Niger, vient voir dans une affaire d'agroécologie. Vous savez quand même que le droit à l'alimentation est un droit fondamental. Et vous savez que notre pays, le Niger, est parti au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à son protocole facultatif. Pour revenir, je pense que ce n'est plus facile pour vous. Il est très difficile pour moi, après tout ce que Ibrahim de Raya Karkara, plateforme agroécologique, a dit sur l'agroécologie, et de pouvoir placer quelque chose. Mais ce que je vais dire, pour l'agriculture au Niger, vous savez que nous sommes dans un pays où l'agriculture, surtout l'agropastoralisme, c'est pratique à plus de 80%, souvent on parle même à plus de 90% par la population. Nous sommes dans un pays où même la répartition de la pluie dans l'espace et le temps, souvent, effectivement, cause problème. Voilà pourquoi nous pensons que, tel qu'a défini, et tel que les caractéristiques que Ibrahim a données, je pense que l'agroécologie est d'une importance capitale pour l'agriculture du Niger. Et j'ai parlé, par exemple, tout de suite aussi du pacte. Aujourd'hui, tous les rapporteurs au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire les mécanismes qui sont liés à ces organes de traité, recommandent l'utilisation de l'agroécologie parce que, il l'a dit, c'est des savoir-faire aussi ancestral. Nous avons trouvé longtemps dans nos villages, nos parents cultivaient et souvent sans utiliser effectivement, comme tu l'as dit, certains pesticides, utiliser des pesticides ou des engrais chimiques et que ça a très bien donné. Je pense que, et il y a aussi cette préservation de l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits qui sont liés aussi, surtout, et à la raréfaction surtout des terres. Donc, je pense que l'utilisation de l'agroécologie à travers toutes les techniques, effectivement, je pense que, dans l'agriculture du Niger, c'est une très bonne chose et qui permettrait effectivement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire ou la souveraineté alimentaire, surtout à laquelle je pense l'objectif auquel on pense pouvoir atteindre à travers toutes les politiques qui sont mise en place par non seulement les gouvernants, mais aussi à travers effectivement les organisations. Parce qu'il a parlé de Rayo Karkara. Le Karkara, c'est un mouvement. Tout comme la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain est un mouvement. Tout comme les autres organisations de défense des droits de l'homme qui militent effectivement en faveur de la mise de l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels dans nos pays.
Monsieur Bello, dites-nous quelles sont aujourd'hui, que pensez-vous de l'importance de l'agroécologie en termes d'entrée à notre débat de ce soir?
Merci beaucoup, monsieur Al-Mustapha, et merci au studio Kalangu de nous avoir offert cette opportunité de parler d'un thème aussi capital que nécessaire pour un pays sahélien comme le Niger. L'agroécologie, c'est d'abord une discipline, comme il l'a dit, scientifique, qui a été quand même introduite dans les années, depuis les années 1928 par un chercheur américain, Basil, mais qui a fait du chemin. Il a fait du chemin parce que tout simplement, les mouvements paysans à travers le monde ont compris que l'agriculture dite conventionnelle, qui est dominante dans le monde, qui a fait une grande production pour pouvoir alimenter la population mondiale qui croît à un rythme quand même assez important, n'était pas la seule alternative et surtout n'est pas l'agriculture durable que le monde devrait avoir. Cela s'explique par plusieurs raisons. Parce que nous avons dit que l'agroécologie, c'est d'abord une science. C'est aussi, on peut dire, un catalyseur entre les sciences agronomiques et les sciences sociales qui sont la sociologie et la géographie. Qui dit sociologie dit connaissance des populations locales, pratique des populations locales, consommation des populations locales. Et qui parle de géographie parle aussi des contextes agroécologique. Dans chaque zone, particulièrement dans la zone sahélienne, nous avons besoin des pratiques qui sont adaptées à notre contexte géographique, je vais dire au contexte climatique tout simplement. En ce moment, de mouvements sociaux qui militent contre le réchauffement climatique, je pense que la pratique, l'agroécologie et ses pratiques constituent une alternative pour nous, pays sahéliens. Le Niger étant un pays sahélien, et par conséquent, un pays confronté aux conséquences des aléas climatiques, et un pays aussi de grandes productions céréalières, mais surtout de productions pastorales. Et en plus, un pays démuni en termes d'énergie. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le Niger n'est pas un pays de production agricole à grande échelle, mais nous faisons l'agriculture de subsistance dont les techniques et les pratiques utilisées sont des pratiques ancestrales et ces pratiques ancestrales sont bien maîtrisées par nos populations et les semences qui sont utilisées sont des semences locales qui sont maîtrisées par ces mêmes populations, là, que ce soit de point de vue animal ou de point de vue agricole, semencière, les céréales et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour nous aujourd'hui, l'agroécologie est dans son contexte issu au Niger. Donc, il s'agit pour nous de militer pour que la politique agricole nationale puisse prendre en compte notre réalité à nous. Autrement dit, nos connaissances agricoles, nos pratiques agricoles et notre contexte géographique et surtout climatique.
Et ne pas se laisser emporter par l'agriculture conventionnelle qui domine.
Emporter ou séduit. Parce que l'autre pratique agricole qui est dominante, nous n'avons pas les moyens au Niger de le faire. Nous n'avons pas la connaissance de l'accompagner. Notre climat n'est pas favorable. Et nos agriculteurs ne sont pas des grands agrobusiness qui peuvent déployer des moyens pour utiliser les machines, utiliser les pesticides, utiliser les OGM pour faire, malgré que nous sommes contre toutes ces pratiques-là, en tout cas en ce qui concerne les OGM, nous n'avons même pas les moyens
de pouvoir
intellectuels, les moyens politiques et les moyens intellectuels et matériels pour rentrer dedans.
Merci, monsieur Mourou Amadou Bello. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre notre échange. Mesdames, messieurs, nous parlons de l'agroécologie, son importance pour le développement agricole et l'autosuffisance alimentaire. Revenons à vous, monsieur Hamadou Ibrahim. Dites-nous, on a parlé de cette agriculture conventionnelle qui est dominante à travers le monde. On a parlé de l'utilisation des pratiques anciennes qui sont importantes et qui sont nombreuses ici au Niger. Est-ce qu'on peut savoir quelques pratiques qui sont là nigériennes et qui sont à conserver pour le développement de l'agricole et pour permettre vraiment à l'agriculture nigérienne de répondre aux attentes des populations.
Merci beaucoup. Et permettez-moi en une minute de revenir sur l'importance et après je donnerai les différentes pratiques. Mm-hmm. Je voudrais compléter mes collègues pour dire que COVID-2019 a été quand même une leçon pour l'humanité. Mm-hmm. Elle a montré les limites du système mondial. Et je ne dirai pas plus. Il faut faire un retour vers des pratiques endogènes.
Et pourquoi pensez-vous que le COVID-19 a...
Oui, parce qu'avec le COVID-19, on a vu qu'on n'a plus la possibilité de faire des importations, les productions sont limitées, l'agriculture a été complètement freinée, alors que par le passé, tout était lié au système mondial. Par exemple, dans le contexte du Niger, on a formé les gens de telle sorte qu'il y a des producteurs qui te disent que si je n'ai pas d'engrais chimiques, je ne produis pas. Mmh. Et avec COVID-19, on a vu que les firmes qui produisaient ça n'avaient pas les ressources humaines nécessaires pour faire la production. Mmh. Donc, il faut revenir à des pratiques, à des alternatives. Mmh. Heureusement que le Niger n'est pas parti très loin dans le conventionnel. Mmh. Autrement dit, ce serait encore une autre insécurité que nous gérons. Mmh. Donc, je voulais donner quand même ce détail pour dire que pour nous, les Nigériens, on a la chance de ne pas embrasser totalement l'agriculture conventionnelle. Pendant que les autres se cherchent pour revenir à l'agroécologie, je citerai des pays européens qui, pas plus tard que cette semaine, l'Assemblée au niveau de l'Europe dans certains pays a voté qu'il faut aller vers la transition agroécologique. Pendant que les gens se battent pour revenir dans la situation dans laquelle nous sommes, nous nous battons pour attraper là où les autres ont échoué. Donc, je voulais quand même dire que nous avons la chance et consolidons cette chance, comme Bello l'a dit, comme l'autre l'a dit. Mettons cette question d'agroécologie dans nos politiques. C'est ce que nous savons faire le mieux et c'est ce qui a nourri les Nigériens depuis des générations et des générations. Je ferai la transition pour venir aux pratiques. Je pense que du point de vue pratique, le Niger est un foisonnement, c'est un laboratoire de pratiques agroécologiques. Beaucoup de pays du Sahel sont venus à l'école du Niger pour apprendre, par exemple, des pratiques comme la régénération naturelle assistée. Beaucoup de pays du Sahel sont venus à l'école du Niger pour apprendre toutes les techniques et les pratiques de restauration et de conservation des sols. Autant de pratiques que les Nigériens, le savoir-faire nigérien a pu forger au fil des générations. Du point de vue intrant, ou je dirais engrais organique, le Niger a une large expérience sur les pays. Étant un pays sahélien où la production est fortement basée sur l'agropastoralisme, nous avons des pratiques ancestrales, durables, telles que par exemple les contrats de pacage qui permet de réguler, n'est-ce pas, de gérer la fertilité des sols. Nous avons autant de pratiques. Mais au-delà de ces pratiques, quand nous prenons dans le contexte du Niger, rien que pour le domaine de la fertilité, les paysans et les paysannes du Niger ont développé plus d'une quinzaine de pratiques pour développer des intrants organiques. Nous disposons des institutions de recherche très bonnes, qui sont très qualifiées, et ils ont développé pas mal de biopesticides, n'est-ce pas, qui vont du Nîmes. Sur le Nîmes seulement, dans le contexte du Niger, on a des biopesticides à base d'amandes, des biopesticides à base des feuilles séchées, à base des feuilles fraîches, à base de tout. On a développé pas mal de cultures, n'est-ce pas, sur lesquelles nous tirons l'essentiel des substances actives nécessaires à la protection des cultures. Notamment tout ce qu'il y a comme boussia, anza communément, n'est-ce pas, les papayes. Je peux citer une trentaine de cultures qui sont utilisées dans le contexte du Niger par les paysans et paysannes, n'est-ce pas, pour sauver leur culture. Je pense que le Niger pourrait même pourrait même
enseigner
cette question d'agroécologie au reste du monde pour le contexte subsaharien.
Merci, monsieur Ibrahim Hamadou Ibrahim, membre de la plateforme agroécologique ici au Niger. Nous allons revenir à vous, monsieur Kani Abdoulaye, membre du CODE et également membre du COBAGEN. Dites-nous, comment pensez-vous que, après toutes ces pratiques qui sont là, dont les Nigériens peuvent même enseigner à travers la sous-région ou bien le monde entier, dites-nous, comment pensez-vous que les Nigériens peuvent subvenir, peuvent répondre aux attentes de la plateforme paysanne avec toutes ces pratiques dans l'abandon des pratiques de la convention ou bien de l'agriculture conventionnelle qui domine aujourd'hui le monde?
C'est une question très importante. Vous savez, souvent, les gens ont été très séduits et lorsque souvent il y a de nouvelles inventions ou de nouvelles pratiques, souvent les gens sont souvent... on a effectivement essayé de séduire les paysans ou les exploitants. C'est vrai qu'ici au Niger, nous, c'est une agriculture de subsistance. Et je l'ai dit en introduction que nous sommes dans un pays, effectivement, où avec le changement climatique et même la répartition de la pluie, n'est-ce pas, dans le temps et l'espace, souvent, n'est pas suffisant. Il suffisait simplement de dire, par exemple, que à un paysan d'abandonner, par exemple, ses anciennes pratiques, en adoptant, par exemple, en utilisant, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, les OGM, qu'il pourrait, par exemple, multiplier sa production ou qu'on pourrait, par exemple, nourrir le monde. Vous voyez, ça a fait qu'effectivement, dans beaucoup de pays, des gens se sont essayés. Et Dieu merci, au Niger, jusque-là, nous n'avons pas de poche. Mais, effectivement, nous avons tendance, souvent, surtout aussi, avec l'augmentation de la population, souvent à vouloir utiliser aussi surtout les engrais chimiques. Les engrais chimiques coûtent extrêmement cher. Oui, ça coûte extrêmement cher. Or, Ibrahim vient effectivement de rappeler, rien que par exemple pour les fertilisants, les connaissances et les savoir-faire des paysans nigériens. Je pense qu'il ne reste plus que aux gouvernants. Et d'ailleurs, là où la constitution du Niger, pour rappel, je ne sais pas, c'est l'article 146 ou 140 et combien, qu'il faut rappeler que le développement, qu'on dit qu'au Niger, dans le cadre du développement de la culture, il faut que ce soit basé sur la souveraineté alimentaire. Je pense que le gouvernant, nos gouvernants, à travers l'accompagnement des organisations, des autres mouvements, doit encourager nos populations, effectivement, vers ces pratiques, surtout en les accompagnant. Et je viens de le rappeler, tous les rapports, effectivement, de tous les rapporteurs, effectivement, l'alimentation, effectivement, recommande, il a utilisé un terme très important, la transition vers une transition agroécologique, de revenir effectivement vers les pratiques agroécologiques. Donc je pense que nous ne devons pas nous mettre en marge à partir du moment où nous pouvons même l'exporter. C'est quelque chose que nous pouvons même exporter.
Merci bien, M. Kani Abdoulaye, pour ces éléments de réponse. Nous avons très bien compris. Nous allons évoluer avec M. Mourou Amadou Bello, qui est également membre du COPAGEN. Dites-nous, on a parlé des engrais chimiques, l'utilisation des engrais chimiques, et l'utilisation des OGM dans l'agriculture conventionnelle. Une agriculture d'ailleurs industrielle dont l'échec est en train d'être constaté à travers le monde. Comment, selon vous, aujourd'hui, les Nigériens peuvent-ils sans obstacle appliquer leur agriculture de manière traditionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, facile d'abandonner ces pratiques dont l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides qui ont été utilisés par certains Nigériens?
Merci bien. Certes, ceux qui font la production du riz, par exemple, et surtout des cultures maraîchères, ont adopté les pesticides comme étant une de leurs formules phares pour fertiliser leurs espaces agricoles. Mais depuis un certain temps, avec le Covid et avec même les conséquences de ces produits sur la fertilité des sols de façon durable, avec les conséquences de la consommation de produits issus de l'ère agriculture, de notre agriculture, qui sont assez dans lesquels on a utilisé assez de pesticides,
assez d'engrais,
les conséquences sanitaires de la consommation de ce produit-là commencent à amener les gens à s'interroger. À s'interroger d'abord sur la nécessité de façon durable à continuer à utiliser ces engrais-là. La nécessité aussi en termes d'alternatives. Aujourd'hui, le commerce international étant fortement perturbé par l'avènement de Covid, on s'interroge même sur les questions d'approvisionnement. Parce que quand on dit on prend un produit qui rentre dans la production alimentaire, d'abord, il faut que le produit soit disponible. Il faut que le produit soit accessible. Donc, de point de vue disponibilité, même le problème commence à se poser. De point de vue accessibilité aussi, le problème se pose. Parce que nos agriculteurs n'ont pas le capital nécessaire pour faire des grandes commandes, pour commander les premiers leurs engrais au niveau de ces usines-là. Donc, en conséquence de quoi, même s'ils continuent à être dedans, ils vont être les parents pauvres de ces pratiques agricoles et surtout de ces grandes firmes internationales. Autre chose, c'est que nous ne maîtrisons pas la science liée aux conséquences de ces engrais chimiques et de ces pesticides. Pourquoi nous ne le maîtrisons pas? Aujourd'hui, le mouvement paysan européen a intenté beaucoup de procès contre des industries qui fabriquent ces produits, des pesticides et des engrais. Ils ont gagné des procès. Ils ont amené l'Union européenne à légiférer contre certains produits dont leurs pratiques sont nuisibles dans l'agriculture. Mais nous, ici au Niger, nous n'avons pas la connaissance pour faire le suivi. Nous n'avons pas la force politique qui nous permet de légiférer, ni au niveau de la CEDEAO, ni au niveau de l'IMOA, moins au niveau de nos États individuellement pris. Parce que pour légiférer, il faut d'abord connaître le produit. Il faut l'étudier. Il faut l'utiliser. Il faut évaluer les conséquences négatives et positives de son utilisation sur la consommation humaine et même sur la production agricole.
Donc il faut en conséquence un travail dans des laboratoires.
Ouais, il faut un travail scientifique et il faut des juristes, des agronomes et des chimistes qualifiés qui ont le temps que pour ça, pour pouvoir faire ce travail. Nous avons un système d'importation qui n'est pas très bien contrôlé. Les structures existent de contrôle, mais quelle est leur capacité d'action? Quels sont leurs moyens d'action? Et quel est l'effet même de la fraude? Les gens qui ne passent même pas par la formule, par les voies formelles pour faire rentrer tous ces produits-là. Donc, bref, nous n'avons pas les capacités de contrôle et d'évaluation nécessaires. Donc, la chose qui nous permet de se protéger contre les conséquences néfastes de ces produits, c'est de se prémunir par rapport à leur utilisation, d'être prudent par rapport à leur utilisation, et les alternatives existent.
Et est-ce qu'au Niger aujourd'hui, on peut parler de l'utilisation des OGM, par exemple les semences modifiées? Est-ce une pratique courante au Niger ou bien encore le Niger n'est pas pleinement allé dedans?
Pour le moment, formellement, nous n'avons pas de champs de test au Niger. C'est au Burkina qu'il y en a eu et les gens étaient rentrés dedans avec le coton BT. Et aujourd'hui, les paysans burkinabés, ils ont utilisé ça, ils ont vu les conséquences. Et nous, les mouvements sociaux de la sous-région, nous sommes en train de mettre à relief toutes ces conséquences négatives de ces OGM-là dans la culture du coton au Burkina. Et Dieu merci, avec la compression très rapide des paysans africains, surtout sahéliens, nous avons pu, d'une manière ou d'une autre, freiner
l'évolution vers
l'utilisation des OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation pour le moment. Parce que en agriculture, c'est comme en football. C'est-à-dire, quand vous utilisez un produit, il vous suffit de 6 mois pour avoir le résultat. Le football, c'est 60 minutes, c'est 90 minutes, je crois. Donc, quand les 90 minutes finissent,
si on a une bonne équipe. L'équipe gagnante.
Oui, on sait l'équipe gagnante. L'agriculture aussi, c'est juste une saison.
Merci. Bien, nous avons compris, messieurs Morou Bello. Nous allons revenir à vous, monsieur Hamadou Ibrahim. Dites-nous, nous allons parler également des obstacles que rencontrent les Nigériens dans leur pratique agricole. Et également parler des perspectives, mais bien avant, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres pratiques que doivent connaître les paysans dans le domaine de l'agroécologie et de l'utilisation des semences paysannes?
Oui, je pense que l'agroécologie, c'est aussi une foire de connaissances. C'est ne pas se cantonner à ces connaissances spécifiques. Il y a autant de pratiques que les paysans nigériens auront de l'intérêt à apprendre. On peut apprendre mutuellement des producteurs du Burkina, du Mali. Il y a des réseaux d'échange dans lesquels les gens se forment, n'est-ce pas? Les gens s'échangent, ils s'enrichissent mutuellement. Donc, et l'agroécologie, à la différence avec certains systèmes agricoles, c'est un système aussi dynamique qui s'enrichit à partir du savoir endogène. L'humanité est une entité qui s'échange. Et donc, les pratiques ne sont pas figées, les pratiques évoluent. Et je pense que ce n'est pas le plateau pour faire, pour étaler toutes les pratiques, mais je pense que les Nigériens auront vraiment de l'intérêt à s'intéresser davantage à l'agroécologie et à développer nos pratiques. Exporter nos pratiques vers les autres pays et nous enrichir des pratiques des autres pays
aussi.
Par rapport à aux semences, je voulais quand même placer quelques mots pour dire que nous devons faire confiance à nos grands-parents qui nous ont devancés. Aujourd'hui, quand vous partez à l'extérieur sur le plan agricole, le sujet sur lequel le Niger est bien connu, ce n'est pas l'engrais chimique, ce n'est pas pesticide. Le Niger est connu sur le violet de Galmi. Et ce violet de Galmi, ça a été l'œuvre des agriculteurs nigériens qui ont apprivoisé l'oignon, qui l'ont conservé dignement et qui ont fait de cela une valeur nigérienne. Et au-delà du violet, nous avons énormément de semences qui se valent. Malheureusement, des semences qui ont été détruites par l'industrie de la communication. À base de publicités mensongères, parfois la conscience paysanne est détournée. Et ça fait qu'on a perdu aujourd'hui nos semences. Savez-vous, est-ce que les Nigériens savent que au Niger, on a la possibilité de produire à partir du blanc de Sukukutan une seule bulbe d'oignon qui peut aller jusqu'à 800 grammes. Beaucoup de Nigériens ne savent pas. On a fait l'expérience, on a produit un oignon, une seule bulbe qui a fait 1 kilo à la foire de Dosso. Ça n'existe nulle part au niveau du monde. Et je voulais aussi compléter pour dire que ce capital existe au niveau des races animales. On a Tukunus, Azawad, Balami, etc., qui sont des spécimens du Niger. Actuellement, quand vous allez dans certains pays comme le Sénégal, ils viennent prendre des géniteurs ici pour aller les démultiplier. Donc, les Nigériens doivent faire confiance au patrimoine que Dieu nous a légué. Et les politiques doivent investir, n'est-ce pas, pour faire prospérer. Le Niger peut se faire connaître à travers l'agriculture. Ce n'est pas que l'uranium, ce n'est pas que les conflits. Nous pouvons exporter l'agriculture.
D'accord. Merci bien, monsieur Hamadou Ibrahim. Nous avons très bien compris. Nous allons évoluer dans le débat, mais avant, observons une petite pause. Mesdames, messieurs, chers invités, nous sommes presque au terme de notre temps d'émission. Nous allons parler des obstacles que peuvent rencontrer les paysans dans l'utilisation de l'agroécologie ou bien dans l'utilisation des pratiques agroécologiques et dans des semences paysannes pour enfin donner des perspectives. Monsieur Kani Abdoulaye, dites-nous, selon vous aujourd'hui, à quel type d'obstacles peuvent faire face les paysans nigériens ou bien africains en général dans l'utilisation des pratiques agroécologiques et l'utilisation des semences paysannes.
Je pense que puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais me cantonner sur le Niger. Le premier obstacle, c'est que la Constitution dit que normalement, on devait légiférer pour avoir une loi sur la souveraineté alimentaire, au Niger. Quand on parle de souveraineté alimentaire, et telle qu'est définie par exemple par Via Campesina, qui a beaucoup travaillé effectivement sur ce domaine, je pense que nous allons revenir effectivement à cette pratique de l'agroécologie où c'est les paysans qui maîtrisent leurs semences. Il l'a dit aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas la maîtrise des semences, vous ne pouvez pas effectivement, vous ne pouvez pas être souverain. Parce qu'on parle de souveraineté. Il y a également et le soutien aux instituts de recherche. Parce qu'il l'a dit, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées au Niger, qui ont donné, mais qui ne sont pas vulgarisées, qui ne sont pas connues. Il y a des savoir-faire aussi des paysans, souvent des savoir-faire des paysans qui ne sont pas connus, faut accompagner. Il faut accompagner les paysans, il faut avoir confiance, effectivement, comme il l'a dit aux paysans, et les accompagner, compter avec eux. Parce que lorsque, tout de suite, il a parlé du violet de galimi. Savez-vous qu'il y a moins d'une dizaine d'années, il y avait une société française qui est basée au Sénégal qui a voulu s'accaparer, par exemple, de cette semence sur laquelle, j'allais dire, on connaît très bien le Niger. Partout où vous partez, on parle de l'oignon de galimi, le violet de galimi. Oh, le galimi, c'est au Niger, dans la région de Tawa. Je pense que c'est d'abord avoir confiance en nos pratiques, reconnaître le droit de nos paysans sur leurs semences. Je pense que en le faisant, on aurait effectivement d'abord rendre à César ce qui est à César, ça veut dire les paysans et les exploitants au niveau, avec le peu que nous avons vu au niveau de certains mouvements qui sont faits, si effectivement on accompagne effectivement les paysans, je pense que on aurait pu aujourd'hui quand même arriver à cette souveraineté alimentaire. Il a dit un aspect très important, effectivement, aujourd'hui avec cette pandémie de Covid-19, tout le système effectivement et d'approvisionnement, surtout au niveau international, est bouleversé. Or, nous avons des savoir-faire. Si ces savoir-faire sont encouragés, nous, on n'a pas besoin effectivement de vouloir effectivement importer ou qu'on dise que nous, c'est l'engrais.
Revenons à M. Mourou Bello. Dites-nous, quel message avez-vous à l'endroit des paysans, des agriculteurs nigériens pour le développement agricole et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire?
Ok, merci bien. Donc, j'ai un appel à l'endroit des paysans. L'appel, c'est que je dois rappeler effectivement les propos d'Ablaï Kani. C'est qu'il faut d'abord qu'ils aient confiance à ce qu'ils possèdent déjà. Ils ne sont pas pauvres en matière de ressources génétiques. La semence existe, nos grands-parents l'ont conservée et ils continuent eux aussi à perpétuer ces semences-là. Donc, il faudrait qu'ils aient confiance à leurs semences. Il faudrait qu'ils aient confiance à leurs pratiques agricoles. Mais ce qui reste à faire, c'est qu'il faudrait que la science, les scientifiques, soient effectivement à la disposition de ces paysans-là. Il faut que le politique légifère du point de vue agricole pour que ces pratiques et ces connaissances endogène soit prise en compte, valorisée et mise à l'échelle. Et de l'autre côté, il faut que la politique liée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire soit en conformité avec les dispositions de la Constitution, notamment aller vers la souveraineté alimentaire qui, met en relief le droit de ces paysans-là et demande aux États d'accepter que ces paysans-là ont du savoir, que ces paysans-là ont des ressources agricoles, notamment l'eau et les terres, et que ces gouvernants-là puissent prendre tout ça dans leur politique agricole, au niveau national et même au niveau sous-régional.
Sous-régional.
Et autre chose que j'aimerais non, je veux juste un aspect, c'est l'aspect de financement de l'agriculture. Il faut que le Niger, par exemple, puisse financer son agriculture. Une agriculture ne peut pas se financer avec les fonds extérieurs. Ça ne peut pas marcher. Et il faut que nous, population, on puisse pousser nos gouvernants à investir dans l'agriculture. Quand j'ai vu à investir, pas dans le système de fonctionnement seulement des ministères techniques, mais dans l'agriculture au niveau paysan.
Merci, monsieur. Nous avons très bien compris. Nous avons très bien compris. Monsieur Hamadou Ibrahim, dites-nous en quelques mots, en guise de perspective, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit des agriculteurs?
À l'endroit des agriculteurs, je voulais dire que pour les agriculteurs, il faut qu'on fasse confiance à notre métier d'agriculteur. 95% des Nigériens sont issus des familles d'agriculteurs, si je n'exagère pas. 95% des Nigériens. Ailleurs, n'est pas agriculteur qui le veut. Ici, on a la possibilité tous d'être agriculteurs. Et Dieu merci, les gens de plus en plus s'intéressent à l'agriculture. Il faut qu'on investisse dans ça. Mais j'ai aussi un message à l'endroit de l'État du Niger. Il faut revoir notre politique. Il faut la réviser comme nos prédécesseurs ont dit. Peut-être inscrire l'agroécologie au centre même de notre politique. C'est ce qu'on sait mieux faire. C'est ce qu'on sait mieux faire au Niger. Nous avons du potentiel. Deuxièmement, à l'endroit aussi toujours de l'État, c'est d'accorder vraiment un financement à l'agriculture, à l'agroécologie de façon spécifique. Au moment où l'agriculture conventionnelle est subventionnée, malheureusement, quand vous lisez notre politique actuelle, l'agriculture écologique ou biologique est taxée. C'est paradoxal.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la question de l'intérêt de l'agroécologie et des semences paysannes dans le développement agricole et dans l'atteinte et pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons retenu dans ce forum avec nos invités qu'il faudrait que les politiciens légifèrent pour la prise en compte des savoir-faire paysans dans les pratiques agricoles. Il faudrait créer les conditions de faire en sorte que les paysans nigériens aient confiance aux pratiques qu'ils ont qui peuvent permettre l'utilisation des pratiques agroécologiques afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La majorité des Nigériens, selon les invités, sont des agriculteurs. C'est une chance. Il faudrait créer les conditions à ce que l'État investisse pour les instituts de recherche également dans le domaine agricole. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour le suivi quotidien des émissions du Studio Kalangou qui sont diffusées sur 46 radios partenaires et 6 télévisions partenaires dont 5 à Niamey et 1 à Zinder. Nous étions dans ce forum en compagnie de M. Kani Abdoulaye qui est membre du code collectif pour des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie au Niger, qui est également membre du COPAGEN. Nous étions en compagnie de M. Ibrahim Hamadou qui est membre de la plateforme agroécologique Raya Karkara, également de M. Marou Amadou Bello, qui est membre de la coalition COPAGEN. Pour la présentation du forum, Bakim Batour Al-Mustapha, à la réalisation technique, Mme Aminatou Hassan, et réalisation vidéo, M. Issa Lawali. À bientôt pour d'autres forums sur les thématiques d'actualité.